9h à Paris, 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Andréane Mélard.
À la une de votre journal, Marion Kazanov, ce nouveau cycle de négociations pour une trêve à Gaza.
Avec des pourparlers à Doha, au Qatar, le président américain, lui, compte se mettre la pression sur le premier ministre israélien qui se rend aujourd'hui à Washington. Washington qui ressort des tiroirs ses droits de douane, suspendus quelques mois pour des négociations. Ils seront appliqués dès le 1er août pour les pays qui n'auront pas trouvé d'accord avec l'administration américaine. La Pologne rétablit des contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie face à un important afflux migratoire. En France, la justice rendra son verdict dans une heure sur le drame de la rue d'Aubagne, à l'effondrement de deux immeubles insalubres à Marseille qui avait fait 8 morts en 2018. Et puis sur le Tour de France, le maillot jaune sur les épaules du Néerlandais Mathieu Van Der Poel après la deuxième étape qui est partie d'un petit village bien peu habitué à toute cette agitation. Reportage en fin de journal.
Au Qatar et aux États-Unis, des manœuvres diplomatiques pour obtenir une trêve à Gaza.
Une première session de pourparlers s'est tenue dans la nuit à Doha, sans résultat pour l'instant. Le président américain, lui, pourrait être un peu plus pressant face à Benjamin Netanyahou. Donald Trump reçoit aujourd'hui à Washington le premier ministre israélien. Washington, où l'on retrouve Pierre Olivier. Pierre, le chef de la Maison-Blanche, dit espérer un accord de trêve cette semaine.
Et c'est la troisième visite du premier ministre israélien depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier. Alors beaucoup de médias américains se demandent quelle va être la surprise lors de la rencontre entre les deux hommes. Car souvenez-vous, lors de leur dernière réunion dans le bureau ovale en avril dernier, alors que les discussions devaient être une promenade de santé pour Benjamin Netanyahou, le premier ministre avait été mis en difficulté par Donald Trump sur la question des tarifs douaniers qu'il n'avait pas voulu baisser et sur l'Iran prenant une reprise des discussions sur le nucléaire, pas franchement ce qu'attendait Israël.
Mais depuis, Pierre, les deux hommes affichent à nouveau une grande proximité.
Et Donald Trump a joint le geste à la parole en bombardant avec ses fameux avions B-2 les installations nucléaires iraniennes il y a 2 semaines. Mais aujourd'hui, c'est surtout de la situation à Gaza dont il devrait être question. Écoutez, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, c'était ce samedi.
Mettre fin à cette guerre brutale à Gaza a toujours été l'une des priorités du président depuis son élection. C'est grâce à lui si l'aide humanitaire est acheminée dans la région. C'est déchirant de voir les images qui nous parviennent à la fois d'Israël et de Gaza depuis le début du conflit. Et le président veut y mettre un terme. Il veut sauver des vies et ramener tous les otages chez eux.
Et si des pourparlers ont eu lieu dimanche entre le Hamas et Israël par l'intermédiaire du Qatar pour un cessez-le-feu de 60 jours et la libération d'otages en plusieurs phases, l'objectif de la visite de ce lundi lui demeure un arrêt total des combats.
L'arrêt total des combats, c'est le mot d'ordre de Donald Trump.
Mais le président américain qui a un intérêt personnel et politique dans cette trêve. D'abord, il est plus désireux que jamais d'obtenir à Gaza la paix qu'il n'a pas réussi à négocier en Ukraine. Car ce n'est un secret pour personne, Donald Trump convoite le prix Nobel de la paix. Et puis, d'un point de vue diplomatique, le président veut créer une alliance américaine élargie au Moyen-Orient, alliance freinée par la guerre à Gaza. Alors si Benjamin Netanyahou insiste pour continuer l'offensive jusqu'à la destruction du Hamas, Donald Trump pourrait être passablement insupporté.
Et alors, de quelles cartes dispose-t-il pour faire plier Benjamin Netanyahou ?
Alors, Donald Trump a fait savoir qu'il comptait être très ferme avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui est d'ailleurs un peu redevable à Donald Trump après son opération sur les sites nucléaires iraniens. Si ça ne suffisait pas, il pourrait aussi le menacer de réduire les livraisons d'armes américaines, comme il l'a fait avec l'Ukraine. Ou encore, Donald Trump pourrait aussi recadrer Benjamin Netanyahou devant les caméras, comme il en a le secret.
Pierre-Olivier à Washington pour le dossier du journal de 9h.
Washington qui risque de faire trembler à nouveau les marchés mondiaux.
C'est le retour des droits de douane suspendus en avril, le temps d'ouvrir des négociations. Eh bien, pour les pays qui n'auront pas réussi à trouver un accord avec la Maison-Blanche, ces tarifs douaniers seront appliqués le 1er août. Des taxes jusqu'à 50%, annonce du ministre américain du Trésor, Scott Bessent. Donald Trump précise que les pays concernés seront notifiés par lettre à partir d'aujourd'hui et que la facture va s'alourdir de 10% supplémentaires pour les pays qui s'aligneraient sur les politiques anti-américaines des BRICS.
Les BRICS, qui est justement de ces droits de douane.
Ils terminent aujourd'hui leur sommet à Rio, au Brésil. Ce bloc de 11 pays que l'on dit généralement non alignés a évoqué donc en sommet ces taxes douanières, mais aussi les grands conflits en cours dans le monde. Correspondance à Rio de Martin Bernard.
Les BRICS ont condamné les attaques menées contre l'Iran, qui est récemment devenu membre du groupe des pays émergents. Ils ont également demandé qu'Israël retire ses troupes de la bande de Gaza. Tout en souhaitant l'instauration de la paix en Ukraine, la déclaration finale condamne la mort de civils dans plusieurs localités russes, sans mentionner toutefois les victimes de l'autre côté de la frontière. L'absence des présidents chinois et russes n'a guère entamé l'enthousiasme du président Lula, qui affirmait que les BRICS constituaient l'héritier du mouvement des non-alignés. Le protectionnisme des pays riches a également été condamné en des termes très forts. Il y a tout d'abord les droits de douane imposés par les États-Unis. Les BRICS ont exprimé leurs sérieuses préoccupations envers l'augmentation des mesures unilatérales qui faussent le commerce mondial et affaiblissent les pays pauvres. Mais l'Union européenne a également été critiquée en filigrane pour une forme de protectionnisme déguisé par des motifs environnementaux. Martin Bernard, Rio, RFI.
On le disait, les BRICS ont réclamé la paix en Ukraine, mais pour l'heure, la Russie poursuit ses bombardements. Au moins 4 personnes ont été tuées, 32 autres blessées dans différentes régions du pays. L'armée russe continue aussi d'avancer dans l'Est et le Nord-Est, où elle a revendiqué hier la prise de 2 nouvelles localités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme de son côté qu'il prépare de nouveaux accords avec les partenaires de l'Ukraine sans donner de précision.
La Russie et son allié, la Biélorussie, régulièrement accusée d'orchestrer des flux migratoires massifs vers l'Europe.
Et face à cet afflux, la Pologne va rétablir des contrôles aux frontières avec la Lituanie et avec l'Allemagne. Pour le cas de l'Allemagne, Varsovie estime que Berlin refoule volontairement des demandeurs d'asile. Et du côté lituanien, il s'agit de contrôler un afflux de migrants qui vient de Biélorussie et qui passe donc par les pays baltes. Explication à Vilnius de Marielle Vitureau.
La police polonaise des frontières va désormais contrôler 13 points de passage sur les 100 kilomètres de frontière avec la Lituanie. Depuis la crise de l'été 2021, les migrants continuent toujours de passer par la région. Mantas Šulskus est à la tête de Sienos Grupė, une association d'aide aux migrants en Lituanie.
Ces 6 derniers mois, les gardes frontières ont refoulé 917 personnes. C'est autant que durant toute l'année 2024.
De janvier à juin 2025, 352 migrants venant de Lettonie et de Lituanie et 31 passeurs ont été arrêtés par les Lituaniens et les Polonais. À la frontière entre la Lettonie et la Biélorussie, la situation est tendue. Tout est fait pour empêcher les migrants de passer, Mantautas Šulskus.
La Lituanie a 600 kilomètres de frontières et partout, sauf dans les marais et rivières, il y a un grillage avec des barbelés et partout, tout le long des caméras de surveillance.
Un tel dispositif est en construction en Lettonie. Autant pour Vilnius que pour Riga, cette migration est instrumentalisée par Moscou et Minsk. La Lettonie et la Lituanie ont répondu avec des régimes spéciaux pour empêcher les migrants de déposer des demandes d'asile et les refouler. Mais ils comparaissent actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme pour ces refoulements illégaux. Marielle Vitureau, Vilnius, RFI.
Et ces contrôles sont rétablis pour au moins 30 jours, a précisé le ministre de l'Intérieur polonais. Ils pourraient être prolongés.
RFI, 10h08 à Nairobi, au Kenya. Un gang armé prend pour cible la Commission kényane des droits de l'homme.
Avec une attaque sur les locaux de cette commission hier, à la veille de la journée symbolique du Saba Saba, la commémoration annuelle des manifestations pro-démocratie des années 1990. L'attaque, Clotilde Hazard, a eu lieu pendant une conférence dénonçant les violences policières dans un contexte de répression sanglante des manifestations.
Sur les images des caméras de surveillance diffusées par la Commission kényane des droits humains, apparaissent une vingtaine d'hommes, pour certains cagoulés, masqués. Ils enfoncent la porte avant d'entrer dans le bâtiment. Ernest Cornell, chargé de communication de l'ONG, a assisté à la scène.
La conférence de presse a été organisée par les mères kényanes dont les enfants descendent dans la rue pour protester contre la mauvaise gouvernance du régime de William Ruto. Ils ont pris la porte d'assaut et ont crié qu'il n'y aurait pas de conférence de presse ni de manifestation ce lundi. Au cours de cette manifestation, les personnes qui s'étaient rassemblées, les mères qui étaient venues avec leurs enfants, certaines âgées de 80 ans, ont dû se réfugier dans le bâtiment principal.
Les assaillants ont ensuite volé des ordinateurs et des micros à des journalistes avant de partir du bâtiment. Pour Ernest Cornell, c'est une nouvelle phase dans la campagne d'intimidation initiée par l'État.
Hier, notre collègue Martin Mavinia, conseiller principal du programme pour les affaires juridiques, a été renvoyé illégalement en Ouganda. Il revenait d'un voyage professionnel en Afrique du Sud lorsqu'il s'est présenté au service de l'immigration de l'aéroport international Jomo Kenyatta. On lui a confisqué son passeport, on l'a placé en détention et envoyé en Ouganda. Nous considérons donc qu'il s'agit d'une escalade visant la Commission kényane des droits de l'homme, son personnel et les défenseurs des droits de l'homme qui ont été le plus actifs.
Ernest Cornell l'assure, cela ne les empêchera pas de se retrouver dans les rues aujourd'hui pour protester contre les violations de leurs droits à manifester.
Clotilde Hazard. En Iran, la disparition jugée inquiétante d'un jeune touriste franco-allemand âgé de 18 ans. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 16 juin, soit 3 semaines de silence, alors qu'il parcourait le pays à vélo. Un avis de recherche a été posté sur les réseaux sociaux.
En France, la justice se prononce aujourd'hui sur le drame de la rue d'Aubagne.
8 morts le 5 novembre 2018 après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille dans le sud du pays. Cela avait relancé le débat sur l'habitat insalubre, sur les manquements des autorités. Le procès s'est tenu à l'automne dernier. 16 personnes physiques ou morales sont poursuivies pour différents chefs d'accusation, notamment pour homicide involontaire et soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes. Laura Martel.
Le 5 novembre 2018, 2 immeubles anciens du centre-ville de Marseille, situés rue d'Aubagne, s'écroulent. 8 personnes sont tuées. Lors du procès, les débats ont permis d'établir que les effondrements du numéro 63, alors inoccupé, et du numéro 65 étaient inéluctables vu l'état du bâti. Pourtant, aucune mise à l'abri des locataires du 65 n'avait été décidée et les travaux entrepris s'étaient avérés inefficaces, voire contre-productifs. Mais à qui en attribuer la responsabilité ? À l'issue de l'enquête, 4 prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal, un adjoint au maire de l'époque, l'architecte qui avait expertisé l'immeuble moins de 3 semaines avant son effondrement et 2 personnes morales, le syndic du 65 et le bailleur social propriétaire du 63. Mais les parties civiles, estimant ces poursuites incomplètes, avaient cité à comparaître 12 de personnes supplémentaires, dont certains copropriétaires. Lors du réquisitoire, le parquet estimait que la quasi-totalité de ces 16 mises en cause étaient coupables. Fustigeant les investisseurs du malheur, les procureurs ont notamment requis des peines de prison ferme contre l'ex-adjoint au maire et l'architecte. La plus lourde, 5 ans de prison dont 3 fermes, a été demandée contre un élu régional qui avait alors la double casquette de propriétaire et avocat du syndic. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe.
Laura Martel, la décision sera rendue ce matin à partir de 8h, temps universel, donc d'ici un peu moins d'une heure. La France prête à restituer le tambour-parleur Didier Ayokwe à la Côte d'Ivoire. Un vote doit avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour permettre cette restitution, 6 ans après la demande officielle d'Abidjan. Le président français s'était engagé en 2021 à rendre cet instrument sacré, servant à transmettre des messages rituels ou à donner l'alerte aux villageois. Il avait été saisi en 1916 par les autorités coloniales françaises, puis exposé dans plusieurs musées parisiens. Actuellement, il est conservé dans une caisse dans l'attente de son retour en Côte d'Ivoire.
Allez, on part sur les routes du Tour de France et du cyclisme, bien sûr. La victoire du Néerlandais Mathieu Van Der Poel hier lors de la 2e étape.
Il s'empare ainsi du maillot jaune à l'arrivée à Boulogne-sur-Mer, dans le nord, 200 km avant l'étape, est partie du village de Lovinplanque, la plus petite commune à accueillir la course cette année. Alors forcément, tout ce monde, ça a un peu chamboulé le quotidien de ces 1600 habitants. Sur place, Thomas de Saint-Léger.
Je vous dis, on verra ça qu'une fois dans sa vie.
Ça c'est sûr, 20 000 personnes à Lovinplanque, bien plus qu'au fameux marché de Noël. Pour quelques heures, ce petit village de briques rouges devient un peu le centre du monde.
On se sent pas en France, en fait. On entend de l'allemand, de l'anglais... Du suédois, j'en sais rien, du norvégien.
Comme Fabrice, David et Morène ont du mal à reconnaître ces rues si familières. Quand le Tour pose son barnum, ses barrières, son podium, c'est un village éphémère qui s'installe sous vos fenêtres.
Hier soir, il n'y avait rien du tout. Et là, sur 12 heures de temps, on ne reconnaît plus. On ne sait même plus où on habite.
Quand on voit que tous les midis, on mange là, la maison qui est juste là. Il n'y a personne d'habitude, il n'y a que nous dans le fond du village. Et là, il y a plein de monde.
Il y a des bus, il y a des camions, il y a des voitures, il y a plein de gens. Voilà, il y a trop de monde. Mais bon, c'est sympa, l'ambiance est géniale.
Les pieds dans la boue, il faut trouver la meilleure place pour voir passer la caravane et les coureurs.
Oui, Alaphilippe, Pogacar, bien sûr, ce sont les vedettes du Tour.
Mais certains viennent aussi, et surtout pour le reste.
Bonne ambiance, les sourires, la fête, la musique.
Les frites moules.
Voilà.
Donc vive le Tour de France et vive le Nord.
Et vive Lovinplanque.
Et la fête est gratuite, enfin presque, un peu plus de 100 000 euros d'argent public pour accueillir le départ de cette étape du Tour de France. Thomas de Saint-Léger, Lovinplanque, RFI.
Et aujourd'hui, la 3e étape reliera Valenciennes à Dunkerque, 178 km, toujours dans le nord de la France, et sur du plat. Une étape donc favorable aux sprinteurs. Et puis en football, la suite de la phase de groupe pour la CAN féminine. Le Nigeria a respecté son statut de favori en battant hier la Tunisie 3-0. Le Sénégal écrase la RDC 4-0. L'Algérie aussi a remporté son premier match 1-0 face au Botswana. Aujourd'hui, 2 matchs au programme. Afrique du Sud-Ghana et Mali-Tanzanie.
Toute l'actualité sportive, ce sera dans une demi-heure avec Antoine Grenier. Merci. Merci Marion Cazeneuve, 9h15 à Paris. La revue de presse internationale avec Léa Boutin-Rivière ce matin à la une. Léa, rencontre très attendue entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump.
Le premier ministre israélien se déplace à Washington pour la première rencontre entre les deux hommes depuis la guerre lancée par Israël contre l'Iran. Un événement porteur d'espoir et dont une grande partie de la presse se fait donc le relais. Les deux hommes parleront du dossier iranien, bien sûr, mais aussi de la guerre à Gaza. Car, écrit le Figaro, le président américain est déterminé à arracher un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Après sa victoire contre Téhéran, le président américain veut poursuivre sur sa lancée et faire progresser la paix au Moyen-Orient, juge le quotidien français. Une perspective envisageable seulement si les armes se taisent dans la bande de Gaza. Le Washington Post, lui aussi, faisant référence aux lubies pour le moins changeantes du chef d'État américain, estime que ce dernier semble être d'humeur à faire la paix. Il faut dire, ironise El País, que Donald Trump a promis lors de la campagne qu'il a ramené à la Maison Blanche qu'il parviendrait à la paix dans le monde dès son premier jour au pouvoir. Et le voilà donc, certes 168 jours plus tard, prêt à avancer vers son objectif. La volonté de fer du président américain va rencontrer celle d'un Benjamin Netanyahou très attaché au pouvoir et dépendant, rappelle le Figaro, d'une coalition va-t-en en guerre. Mais justement, pointe le Washington Post, politiquement, le Premier ministre n'aura pas de meilleure opportunité que celle qui se présente après la réussite sur le terrain iranien et qui va s'estomper avec le temps. De toute façon, abonde le Soir en Belgique, dans les faits, les deux hommes ont intérêt à conclure cette trêve. L'un pour concrétiser l'image de faiseur de paix qu'il cherche à se donner depuis le début de son mandat, et l'autre pour ménager son opinion publique qui attend toujours le retour d'une cinquantaine d'otages retenus dans Gaza.
Et les négociateurs israéliens sont eux aussi en déplacement.
Eux se rendent à Doha au Qatar et ils ont décollé quelques heures à peine après Benjamin Netanyahou. Cette synchronicité n'a rien d'une coïncidence, souligne Haaretz en Israël. Le président américain a indiqué à plusieurs reprises qu'il perd patience au sujet des combats en Israël et, sous la pression américaine, aussi bien l'État hébreu que le Hamas ont rapidement fait savoir leur disponibilité. Une ébauche d'accord a déjà été rédigée, dont El País rappelle le point de départ, un cessez-le-feu de 60 jours qui serait l'occasion d'un échange de prisonniers et d'otages. Mais ce premier jet, critique à Haaretz, laisse de côté certains points essentiels, comme la fin de la guerre ou la gestion de Gaza une fois que les forces israéliennes se seront retirées. Et la question du départ des soldats israéliens a toujours été l'un des points les plus sensibles des négociations, et il l'est probablement toujours. Un expert interrogé par Le Soir se dit ainsi extrêmement dubitatif sur le fait que Benjamin Netanyahou l'accepte, d'autant que ces derniers mois, Washington avait validé l'idée que la bande de Gaza, telle qu'elle a existé jusqu'à présent, pouvait disparaître. Mais si cela doit arriver, ce sera, juge Le Soir toujours, par étapes, car aujourd'hui, ce qui compte pour Israël, c'est de rester dans Gaza.
Et à la une, également, Léa, l'intelligence artificielle et les menaces qu'elle fait peser sur Internet.
Et pour commencer, je vais vous poser une question, Andréane. Est-ce que vous utilisez toujours Google ?
Eh oui, tous les jours.
Alors, la sentence du Monde est irrévocable. Vous êtes, je cite, une cyberboomeuse.
Ah non !
Désolée, car les plus jeunes, eux, utilisent ChatGPT, Claude, Perplexity ou un autre agent conversationnel pour leur recherche en ligne. Une tendance, voire une révolution, qui aura, entrevoit déjà le quotidien français, des conséquences vertigineuses pour l'avenir du web. Alors vous n'êtes peut-être pas convaincu, difficile c'est vrai d'imaginer quitter Google ou un autre moteur de recherche quand on y a passé plus de 20 ans. Pourtant le Monde en est certain, demain, qu'il le veuille ou non, tous les utilisateurs de Google franchiront le pas. Et le géant américain en a conscience puisqu'il a déjà mis en place deux solutions de recherche par IA. En fait, ces nouveaux moteurs de recherche qui n'impliquent plus de cliquer sur des liens remettent en cause tout le modèle économique du web qui risque de s'écrouler, prédit Le Monde. Et s'il n'y a plus de motivation financière, s'il n'y a plus de visites sur les sites puisqu'on ne clique plus sur les liens, questionne Le Monde, alors pourquoi s'acharner à publier du contenu ? D'où cette question, à force de systèmes d'IA qui ringardisent les moteurs de recherche, que va-t-il rester de ce fameux World Wide Web qu'on a connu ?
Vaste question pour terminer cette revue de presse international. Merci Léa Boutin-Rivière. De nouvelles frappes russes meurtrières en Ukraine cette nuit. Moscou qui a dit hier s'être emparé de deux nouvelles localités dans l'est et le nord-est du pays. La guerre continue, l'armée russe progresse et les pays européens, eux, continuent de voir grandir la menace, ce qui les pousse à renforcer leur défense. Le Danemark, par exemple, déploie des drones de surface pour renforcer la sécurité maritime autour de l'Europe du Nord. Notre correspondante Ottilia Ferret a assisté récemment au départ de deux d'entre eux à quelques dizaines de kilomètres de Copenhague.
Ils captent tout et ils voient tout, que ce soit au-dessus ou en dessous de la surface. Ces quatre sail drones voyageurs, comme ils s'appellent, sont actuellement testés par la marine danoise qui a bon espoir de les ajouter définitivement à son arsenal de défense. Et pour le lieutenant général Kim Jorgensen, le temps presse.
Nous devons déterminer comment les navires sans équipage peuvent s'intégrer dans nos eaux très fréquentées. Nous devons augmenter nos connaissances du domaine maritime et il faut faire vite en raison de la situation sécuritaire actuelle. What
is sailing there? La mer Baltique, dont les détroits danois sont la porte d'entrée, concentre en effet plus de 8% du trafic maritime mondial et l'homme y est, à l'heure actuelle, peu présent. Ces drones voiliers peuvent donc permettre de collecter données et renseignements précieux. Ils peuvent par exemple donner l'alerte rapidement en cas de potentiel sabotage de câbles sous-marins ou de menaces venues de l'Est.
Et la flotte fantôme russe est évidemment l'un des éléments qui nous intéresse.
Ces engins de 10 mètres de long et remplis d'outils technologiques sont alimentés par l'énergie éolienne et solaire. Richard Jenkins, PDG de Saildrone, l'entreprise américaine qui fabrique ces voyageurs, explique que c'est la première fois que ce genre de navire est utilisé en Europe.
C'est vraiment le début de nos opérations en Europe et on s'est ancré au Danemark. Deux drones sont déployés aujourd'hui, mais il y en a quatre en tout. Ils sont équipés avec des caméras, des radars, des caméras de vision infrarouge, des outils acoustiques et des sonars. Ils sont vraiment nos yeux et nos oreilles à la surface et sous la mer.
Les innombrables capteurs intégrés à ces drones voiliers sont capables d'observer ce qu'il se passe jusqu'à 300 mètres de profondeur. Des agents se relaient à Londres, en Australie et en Californie pour collecter 24 heures sur 24, toutes les informations récoltées par ces appareils sans pilote.
Tout est collecté en temps réel. Les données sont reçues en quelques secondes. Avec ces drones, on espère voir tout ce qui se passe en mer Baltique. Sous l'eau, il y a de nombreuses traces de sous-marins. Il y a une grande inquiétude que la Russie, entre autres, place des appareils près des infrastructures sous-marines, sous les câbles de communication ou près des parcs éoliens dont on se sert de sonars sur les drones pour cartographier le fond des mers et même en dessous des fond. Ça permet de voir si quelque chose a été placé là, si quelque chose a été endommagé ou quoi que ce soit de suspect.
Ces véhicules peuvent aussi naviguer en toute autonomie pendant 3 mois à la vitesse de 5 nœuds. Richard Jenkins confie aussi que plusieurs autres pays nordiques seraient prêts à se doter de ces drones sans pilote pour aller patrouiller en mer Baltique, devenu un haut lieu de tension avec le voisin russe. Ottilia Ferré, Kogge, RFI.
Un reportage à écouter en intégralité dans Accent d'Europe sur RFI aujourd'hui. Se défendre pour peser sur la scène internationale. L'Australie, elle, a une toute autre méthode. Et là, il s'agit de répondre à l'influence grandissante de la Chine dans le Pacifique. Il s'agit de la diplomatie par le sport, en l'occurrence le rugby. Mais il ne s'agit pas que de sport, hein, on va le voir. On en parle tout de suite avec Grégory Pless, notre correspondant à Sydney. Grégory, il y a un an, a été signé un accord pour plus de 330 millions d'euros entre la Ligue nationale de rugby et le gouvernement australien, qui visait à créer et intégrer une nouvelle équipe au championnat australien de rugby à 13, équipe basée à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Oui, absolument. Cette équipe papou, elle doit rejoindre le championnat australien à partir de 2028. Et si on entre dans le détail, sur ces 330 millions d'euros, près de la moitié, 160 millions, vont être alloués pour développer cette nouvelle équipe. Et près de 140 autres millions vont être dédiés à la création d'un partenariat avec la Ligue de rugby du Pacifique, au sein de laquelle se trouvent les Fidji, Tonga et Samoa. L'idée est de développer dans ces pays la pratique du rugby à 13, qui, contrairement à l'Australie et à la Papouasie, est moins populaire que le rugby à 15, mais aussi de créer des passerelles pour permettre aux meilleurs joueurs de ces pays de pouvoir rejoindre plus facilement le championnat australien. Sauf que cet accord, il n'est pas seulement sportif. Une clause du contrat prévoit en effet que si la Papouasie-Nouvelle-Guinée venait à signer un accord sécuritaire avec la Chine, une proposition faite à ce pays comme à la plupart des autres dans la région, eh bien l'Australie retirerait son soutien financier et la Ligue sa franchise à cette nouvelle équipe papoue.
Alors Pékin ne reste pas sans rien faire, hein, Grégory, et répond aussi sur le terrain sportif.
Et oui, puisque comme ailleurs dans le monde, la Chine investit beaucoup dans les infrastructures de ses pays, à travers par exemple la construction de stades. Elle a ainsi livré en mars dernier un complexe sportif national au Tonga, qu'elle a entièrement financé pour un peu plus de 30 millions d'euros, et signé tout récemment un protocole d'accord avec la Fédération fidjienne de rugby pour notamment développer de futurs talents. Enfin, la semaine dernière, on apprenait que des dirigeants des fédérations de Samoa et des Tonga étaient effectivement en négociation avec les autorités chinoises pour que ces dernières investissent dans leur sport, celui dans lequel ces tout petits pays arrivent à se distinguer au niveau international, le rugby à 15.
Et c'est là que le bas blesse, ces pays sont tous passionnés par le ballon ovale, mais en Australie on est plutôt rugby à 13, tandis que dans ces nations insulaires on préfère le rugby à 15.
Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet investissement australien n'est pas forcément vu d'un bon œil dans ces pays. Ils craignent qu'avec le déversement de tout cet argent, il va y avoir une fuite de leurs meilleurs talents vers le championnat australien et le rugby à 13, et qu'en conséquence, cela va affaiblir leurs équipes de rugby à 15. C'est pourquoi les Fidji, Tonga et Samoa ont décidé d'unir leurs forces pour demander conjointement à Canberra une aide financière d'un peu plus de 80 millions d'euros, qui serait destiné à financer le rugby à 15 dans leurs pays respectifs. Preuve s'il en est que même pour les plus fanatiques du ballon ovale, tout reste d'abord et avant tout une affaire de rond.
Grégory Pless à Sydney pour RFI. RFI Matin, juste avant le journal de 7h30, temps universel, c'est notre question d'environnement. Faut-il protéger le grand tétra, cet oiseau qui fait partie des plus imposants à peupler les forêts de montagne en Europe? Le grand tétra fait partie de ce qu'on appelle les espèces parapluies, c'est-à-dire que sa présence atteste de la bonne santé d'autres espèces de la faune et de la flore. Mais comme d'autres, bien le grand tétra est menacé et le réchauffement climatique pourrait lui être fatal. Igor Strauss nous emmène ce matin dans le Jura, en France, près de la frontière suisse, à l'écoute de ce géant des bois. Reportage.
Le grand tétra est reconnaissable à son chant, et à sa morphologie.
Le grand tétra, c'est un oiseau tout noir. Il a une tache blanche sur l'aile. Et puis, il a des reflets métalliques un petit peu partout. Bleu, marron, noir. C'est un gros oiseau très imposant.
S'intéresser au grand tétra, c'est parcourir la forêt et découvrir sa biodiversité.
Ah, c'est beau la forêt comme ça, ah, quand oui, c'est oui, tout oui. En fleurs. Hein.
La fila, c'est extrêmement riche.
Vincent Gardin est le chargé de mission scientifique de l'association Groupe Tétra Jura et un fin connaisseur des forêts d'altitude.
Là, vous avez des boutons d'or, vous avez plein de fraisiers, vous avez de la myrcie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des orchidées sauvages, vous avez de l'euphorbe. Ah,
oui. Car le grand tétra dépend exclusivement de la forêt pour son alimentation, des épines de sapin pendant les mois d'hiver, avant le grand festin du printemps.
Au printemps, en été et puis en automne, il va manger plutôt, alors au départ, des bourgeons, que ce soit des petites framboises, beaucoup de myrtilles.
Il est très myrtille.
Ah oui, il est très myrtille, vraiment. Et la myrtille, c'est un arbrisseau qui dépend de la présence de résineux. Et en conséquence, si jamais les résineux venaient à décliner d'un espace, il y aurait peut-être moins de sol acide et donc beaucoup moins favorable pour la myrtille. Ça va rendre l'espace beaucoup moins favorable pour tout un tas d'espèces, dont le grand tétra qui raffole de la myrtille.
Protéger la forêt permet donc de protéger le grand tétra, or...
Si on protège le grand tétra, on protège tout un tas d'habitats qui sont favorables à de très nombreuses espèces, la plupart qui sont soit en déclin, soit sensibles.
Mais depuis les années 80, les effectifs de grand tétra sont en constante diminution. Il restait 278 individus dans le Jura en 2020, soit un déclin de 20% de sa population en à peine 10 ans. Les causes, le réchauffement climatique, une fragmentation de la forêt qui entraîne une destruction de son habitat et une présence humaine toujours plus importante qui effraie les oiseaux. Dès lors, une question se pose, faut-il protéger le grand tétra à tout prix? Vincent Gardet.
C'est aussi défendable de se dire, je veux qu'une espèce reste présente pour que ces milieux continuent d'avoir une biodiversité extrêmement riche. C'est aussi un autre point de vue qui se défend de dire, on a tout tenté pendant les 20 dernières années pour conserver le grand tétra et malgré tous ces efforts, il y a un déclin qui se poursuit. Et donc, on décide que cette espèce-là n'a peut-être plus sa place au regard des enjeux socioculturels. Et c'est une conclusion qu'il va falloir assumer dans un cas comme dans l'autre.
Dans le Jura, la présence du grand tétra dépend donc des aléas climatiques et de la volonté humaine.
Et demain, on va continuer de parcourir la forêt du Jura avec Igor Strauss, RFI. À suivre le journal.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
reportage sur les foyers de travailleurs immigrés. Pourquoi la France veut les supprimer ?
Demain,
petits messages, photos, objets, souvenirs, que faut-il garder de ces relations passées ? Appelez-nous si vos armoires débordent.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.